Vous écoutez Europe 1, il est 22h. 22h, 22h30, Europe Nuit, Emmanuel Faux, bonsoir.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre édition de la nuit. À la une ce soir, le message de guerre de la communauté internationale à l'État islamique. Les 27 pays réunis aujourd'hui à Paris ont promis toute leur aide, y compris militaire, aux autorités irakiennes. Deux nouveaux drames de l'immigration en Méditerranée. Environ 700 personnes auraient trouvé la mort en une semaine au large de la Libye et au large de l'île de Malte. Combien seront-ils d'élus socialistes à fronder dans les urnes demain au moment du vote de confiance au gouvernement de Manuel Valls? Invité d'Europe Nuit vers 22h15, la sénatrice socialiste Marie-Noëlle Lienemann. Nous parlerons également de la grève Air France qui se poursuit, de l'ouverture du procès de la tempête Xynthia en Vendée et d'une arrivée plutôt décevante de Netflix sur les écrans français. Visiblement, le catalogue américain n'est pas à la hauteur. Le tout écho d'Éric Le Boucher et autour du monde la chronique internationale d'Henri Guirchoun. Voilà le programme. Installez-vous, c'est Europe Nuit.
Europe 1.
3 heures de réunion au Quai d'Orsay, 27 pays représentés. La conférence sur la paix et la sécurité en Irak s'est tenue au moment même où des avions de combat Rafale envoyés par la France effectuaient un vol de reconnaissance au-dessus de l'Irak. L'objectif des pays présents à Paris était d'adresser un message aux djihadistes de l'État islamique. Alors que peut-on retenir de cette réunion, Xavier Yvon ?
Eh bien, il en est ressorti une déclaration de guerre commune en bonne et due forme contre l'État islamique, ennemi de l'humanité, comme l'a dit le représentant irakien. Mais comme le glisse un diplomate français, les conférences, c'est comme les grands messes, c'est nécessaire, mais ce n'est pas là que se font les miracles. En une matinée de discussion sous les ors du Quai d'Orsay, la trentaine de ministres des Affaires étrangères a juste posé un constat commun. L'État islamique est un corps étranger cancéreux, pour reprendre le mot d'un diplomate, et la communauté internationale est bien décidée à le combattre par tous les moyens, militaires, financiers, humanitaires. Pour les modalités, on verra plus tard. Il fallait aussi envoyer une onde de confiance au nouveau gouvernement irakien, plus équilibré que l'ancien, qui était accusé d'avoir fait le jeu des extrémistes.
Xavier Yvon, l'Iran n'avait pas été convié à cette conférence et ce soir Téhéran qualifie d'illégitime la coalition internationale formée pour combattre Daesh, l'État islamique. Les Iraniens dénoncent l'objectif de Washington qui est selon eux de renverser le régime syrien de Bachar el-Assad. Si d'ici 3 à 6 mois, la situation ne s'est pas inversée, ce sera foutu. Cette phrase que le journal Le Monde prête à Manuel Valls est lourde de sens. D'ailleurs, sans la démentir formellement, le Premier ministre était visiblement mécontent qu'elle figure à la une du quotidien. À la veille d'un vote de confiance qui s'annonce périlleux pour lui, Manuel Valls a consacré son après-midi à battre le rappel des troupes socialistes et à tenter de limiter les dégâts que pourraient causer demain les députés frondeurs, Aurélie Herbeumont.
Et oui, ce séminaire portait sur la situation internationale, mais il avait forcément une portée particulière à la veille de ce vote. Portée particulière aussi après les propos défaitistes du Premier ministre rapportés par Le Monde, où Manuel Valls expliquait que si d'ici 3 ou 6 mois, la situation ne s'est pas inversée, ce sera foutu, ouvrant ainsi les spéculations sur la possibilité de voir un troisième Premier ministre dans ce quinquennat. Mais Manuel Valls a tenu à dire à ses troupes qu'il est là et bien là.
Je suis là pour tenir. Dans un dialogue permanent avec la majorité et le Parlement, parce que le pays a besoin que l'exécutif tienne, assume ses responsabilités, assume l'autorité. Donc ma mission, dans la durée, je l'accomplirai jusqu'au bout. Chacun peut être bien certain de cela.
Emmanuel Valls reviendra demain matin pour la partie économique de leur séminaire. Une manière de serrer les boulons de sa majorité. Même si les frondeurs ont bien l'intention de fronder, ce sera le cas de Pascal Cherki.
Mon état d'esprit est assez simple. Je ne suis pas dans l'opposition, mais je suis en désaccord avec la politique qu'on mène. Donc mon vote sera le prolongement de cet état d'esprit. Je m'abstiendrai. Mon but n'est pas de faire tomber le gouvernement, et mon but est d'adresser un signal politique. Notre but, de dire il faut faire autrement maintenant.
Alors reste à savoir combien ils seront au final de députés socialistes récalcitrants, plus que les 11 de la dernière fois, ça c'est acquis.
Aurélie Herbeumont du service politique d'Europe 1. Je vous rappelle que la sénatrice socialiste Marie-Noëlle Lienemann sera l'invitée d'Europe Nuit dans un petit quart d'heure. Le nouveau sondage Ipsos pour Le Point confirme la chute de popularité de François Hollande, observée dans le récent baromètre TNS Sofres. Seulement 13% de bonnes opinions pour le chef de l'État et 30% pour son Premier ministre Manuel Valls. Un vol sur deux aujourd'hui, environ 40% du trafic assuré demain. La grève des pilotes d'Air France est très suivie. La direction de la compagnie va même jusqu'à envisager une paralysie à partir de de mercredi. Le syndicat majoritaire des pilotes, le SNPL, a demandé aujourd'hui l'ouverture de vraies négociations. Écoutez Guillaume Schmitt, il interpelle le patron de la compagnie.
La direction ne veut pas bouger d'un poil. Aujourd'hui, on est dans le dogme. Aujourd'hui, nous avons un président directeur général qui préfère abandonner les négociations en cours, comme c'est produit hier soir, en allant sur TF1 pour aller faire le 20h. Nous trouvons ça dommageable, nous sommes consternés. Si l'inflexibilité de la direction d'Air France se poursuit, oui, la grève ne pourra aller qu'en se durcissant. Nous le regrettons sur l'état des vols aujourd'hui. Ce que nous savons, c'est que les vols ont été gréés avec des pilotes cadres, c'est-à-dire des pilotes qui passent la moitié du temps dans leur bureau, la moitié du temps en vol. Demain, ça ne sera plus le cas. La plupart de ces pilotes seront partis. Et mercredi, nous arriverons à une situation de blocage, oui, une situation très compliquée.
Guillaume Schmitt du syndicat national des pilotes de ligne avec Aude Vernuccio. En dehors des embarras pour les passagers, le PDG d'Air France KLM a commencé à faire ses comptes. Alexandre de Juniac redoute que ce mouvement n'empêche la compagnie de renouer avec les bénéfices.
Le conflit est difficile, hein. Il porte atteinte à l'image Air France et il nous coûte cher. Nous le regrettons particulièrement et on préfère y mettre fin le plus vite possible. Hein. Ceci dit, je ne pense pas que n'importe quel accord puisse être conclu. Je dois dire qu'en face, j'ai pas vu beaucoup d'avancées. Le projet que nous proposons aux pilotes est un projet qui n'a que des points positifs. Premièrement, s'ils veulent aller à Transavia, c'est leur choix. Nous n'imposons rien. Deuxièmement, et s'ils viennent à Transavia, c'est en général une carrière améliorée et plutôt une augmentation de leur rémunération. Et je le dis aux pilotes, pourquoi êtes-vous en conflit? Reprenez le travail et profitez de l'opportunité qui s'offre à vous.
Le président du groupe Air France KLM, Alexandre de Juniac, au micro Europe 1 de Jeanne Daudet. Traitement de choc à Libération, la direction du journal a annoncé ce matin au comité d'entreprise un plan de suppression de 93 postes, soit plus du tiers des effectifs. Pour le nouveau directeur Laurent Geoffrin, qui a repris les commandes il y a 6 mois, c'est une décision inévitable pour sauver le journal. Et puis les propositions du MEDEF pour créer 1 million d'emplois font bondir les syndicats. La CGT se dit stupéfaite par le culot du patronat, qui propose notamment de supprimer des jours fériés et de déroger au SMIC et aux 35 heures. Le secrétaire général Thierry Lepan appelle Manuel Valls à ramener le patronat à la raison.
Europe 1, Emmanuel Faux.
22h07 dans Europe Nuit, les eaux de la Méditerranée à nouveau endeuillées par le naufrage de bateaux de migrants. Et comme souvent, les victimes se comptent par centaines. Il y a eu hier soir ce naufrage au large des côtes libyennes qui aurait fait plus de 200 morts, puisque seules 26 personnes ont pu être secourues sur un navire qui en transportait 250. Et puis on apprend aujourd'hui qu'un autre drame aurait eu lieu la semaine dernière au large de Malte. Et même si les circonstances ne sont pas encore très claires, on parle cette fois d'au moins 500 morts ou disparus. Virginie Riva, vous êtes en Italie?
Oui, et selon le récit de 2 survivants, ce sont les passeurs qui auraient fait couler à pic leur bateau, et ce, à plus de 450 km des côtes maltaises. Tout repose aujourd'hui sur le témoignage de 2 Palestiniens de Gaza, partis le 6 septembre de Damiette en Égypte, direction vraisemblablement Malte, sauvés en haute mer par un porte-conteneur panaméen. Après avoir passé plus d'un jour et demi en mer, les deux hommes sont arrivés en Sicile samedi, où la police italienne a recueilli leur témoignage, et c'est l'organisation internationale pour les migrations qui rend public aujourd'hui le contenu de leur récit, allant jusqu'à parler d'homicide de masse. Les deux hommes racontent avoir dû changer plusieurs fois de bateau durant toute la traversée, une méthode classique des réseaux de migration mafieux pour ne pas être repérés. Mais mercredi dernier, ces passeurs demandent aux clandestins de sauter sur un bateau plus petit et donc plus dangereux. Les migrants refusent. Les passeurs auraient alors embouti la poupe de leur embarcation pour le faire couler. Ce soir, une enquête est en cours, mais il reste beaucoup de zones d'ombre. Les autorités italiennes ne communiquent pas encore. La marine maltaise, de son côté, a parlé d'une collision entre 2 embarcations comme étant à l'origine de ce drame. Quel que soit le scénario, il y aurait bien 500 personnes mortes, noyées.
La correspondante d'Europe 1 en Italie, Virginie Riva. C'est un procès de 5 semaines qui s'est ouvert cet après-midi au Sable d'Olonne. La justice va tenter d'établir les responsabilités et les erreurs qui ont pu conduire à la mort de 29 habitants de la Faute-sur-Mer en Vendée, des victimes englouties par les eaux de la tempête Xynthia chez eux en pleine nuit. C'était le 28 février 2010. Dans la grande salle où vont se dérouler les audiences, plus de 120 parties civiles sont représentées, ainsi bien sûr que les familles. Face à elle, l'ancien maire de la commune qui est désigné comme le principal responsable, François Coulon.
Oui, René Maratier, qui avait observé un silence total avant l'ouverture du procès, à son arrivée ici, il est assailli par la presse.
À cet instant, mes pensées vont spécialement aux victimes.
C'est dur pour vous ?
Très compliqué. La douleur de ma souffrance est inscrite jusqu'au plus profond de moi-même. J'ai fait ma mission de maire.
Voilà, René Maratier persiste et signe. J'ai fait mon travail de maire, sous-entendu je n'ai rien à me reprocher. Insoutenable pour Gisèle Arnaud qui a perdu son père dans la catastrophe.
Quand il est arrivé, il nous a regardé droit dans les yeux. C'est vivre dans le déni. Et il est passé à la barre, il n'a aucun sentiment. Aucun. Moi, ça me choque, moi. Il y a quand même 20 chefs d'accusation contre M. Maratier. C'est quand même grave. Quand on entend la lecture comme ça des 29 personnes, mais ça fait mal, ça fait mal. J'ai des pointes au cœur.
Alors, le président égrène la terrible liste des 29 victimes. Il vous est reproché d'avoir involontairement causé leur mort. À la barre, René Maratier ne scie pas. La mère d'Eva fait partie des victimes.
Il est bien évident qu'il n'a pas voulu tous ses décès, mais qu'on reconnaisse au moins ses erreurs, ses fautes. En tant que mère, on a des devoirs, faut pas les oublier. Personne ne mérite de mourir, pas comme ça.
Voilà, on reproche entre autres à René Maratier une obstruction systématique aux mesures de précaution réclamées par la préfecture. Lui regrette qu'on ne lui ait pas expliqué simplement que des gens risquaient de mourir. Ses avocats vont plaider la relaxe.
François Coulon au tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne. Annoncé comme la révolution de la vidéo à domicile, le réseau américain Netflix est arrivé ce matin sur les écrans français, au menu des milliers d'heures de documentaires, de séries et de films. Mais pour l'instant, Mathieu Charrier, les programmes ne tiennent pas toutes leurs promesses.
Le premier domaine dans lequel Netflix déçoit, c'est celui des séries, qui a pourtant fait sa réputation aux États-Unis. Netflix en a 3000 heures dans son catalogue, ça paraît beaucoup et pourtant ce n'est pas assez. Canal Play, la plateforme de Canal, en compte 800 de plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les producteurs ont vendu leurs séries à la France avant l'arrivée de Netflix. Donc d'autres plateformes, d'autres diffuseurs ont acheté les droits pour notre pays. Le comble, c'est la saison 3 d'House of Cards, produite par Netflix, mais diffusée en France par Canal+, qui avait acheté les droits. Et puis côté film, problème aussi, Netflix comme les autres est obligé de respecter la chronologie des médias, c'est-à-dire d'attendre 3 ans après la sortie d'un film au cinéma pour le diffuser. Là encore, certains abonnés pensaient pouvoir trouver des nouveautés, c'est raté. Il y a même un site Netflix qui s'est créé pour répertorier tous les films qui ne sont pas sur Netflix. La vie d'Adèle, Les garçons et Guillaume à table, Les trois frères, Le retour, 9 mois ferme, voilà. J'ai pris quelques succès français de l'année dernière, et bien ils ne sont pas sur la plateforme, il y en a des listes de films manquants. Et c'est encore pire pour les vieux films, là encore, impossible pour beaucoup de les trouver sur Netflix. Mais bon, petit à petit, le géant américain va étoffer son catalogue. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai qu'en France, Netflix ne propose pas beaucoup plus de choix que d'autres plateformes de vidéos à la demande.
Merci Mathieu Charrier. Le temps pour demain, Valérie Darmon. Après les orages d'aujourd'hui, quel est le programme ?
Demain est une journée ensoleillée, la plus belle de la semaine, avec quelques orages sur les reliefs de l'Est dans l'après-midi et des averses sur l'Hérault. Le matin toujours et aussi, on a des nappes de grisaille en Bretagne, entre le Pas-de-Calais et l'Alsace, et un voile de nuages généralisé sur le sud-ouest du pays. Ailleurs, il fera beau et chaud dès le lever du soleil. Des valeurs qui sont en hausse par rapport à aujourd'hui. Et oui, c'est possible, des valeurs de plein été avec 31 degrés à Mont-de-Marsan au meilleur moment de la journée à la mi-septembre, 30 à Angoulême et à Bordeaux, 29 à Toulouse et à Nantes, 28 à Valence, 27 à Paris, à Lyon, à Clermont-Ferrand et à Lorient, 25 à Perpignan et à Colmar, 24 à Strasbourg et à Amiens, 22 à Cherbourg. Inutile de vous préciser, Emmanuel, qu'on est au-dessus des normales de saison.
Et c'est toujours agréable à entendre. Merci Valérie Darmon. 22h13 dans Europe Nuit, place à l'économie. Et le Tout Éco, c'est comme chaque soir avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric.
Bonsoir Emmanuel.
On commence par un tour des marchés financiers, d'abord par Wall Street.
Le Dow Jones termine en petite hausse de 0,26% à 17 030 points, mais dans un climat de grande prudence à cause des statistiques très médiocres en Chine et aux États-Unis. En Chine, la production industrielle a cru de 6,9% en août sur un an. C'est une nette baisse, le rythme était encore de 9% en juillet. Ce chiffre laisse penser que la Chine n'atteindra pas cette année son objectif de croissance de son PIB de 7,5%. Elle fera moins. Aux États-Unis, la production industrielle a reculé de 0,1% au mois d'août. C'est son premier recul depuis janvier.
La température sur les places européennes.
Le CAC a cédé 0,29% à 4 428 points. Paris se dirige vers les 4 400 points. La bourse de Londres a gagné 0,11%. Celle de Francfort, 0,09%. Mais l'Eurostock 50, qui regroupe les principales valeurs de la zone euro, a cédé quelques points pour terminer en baisse à 0,06%.
Le point sur quelques entreprises.
Air France a abandonné 3,25% à 8,5%. 27 euros. Le PDG Alexandre de Jugnat se dit inquiet, on vient de l'entendre, de l'absence d'avancée dans les discussions avec les pilotes grévistes. La grève a commencé ce matin, elle se durcit, elle pourrait durer jusqu'en 22 septembre et on évoque le coût de 120 millions d'euros pour le groupe dans le pire des scénarios. Le club méditerranéen, lui, gagne 5,36% à 22,41 €. C'était attendu, la cotation de l'action du groupe de loisirs avait repris ce matin et entre-temps, deux repreneurs font monter les enchères. Le chinois Fosun, qui a le soutien du conseil d'administration, et l'homme d'affaires italien Andrea Bonomi.
Voilà pour les marchés.
Europe 1, Emmanuel Faux.
Bonsoir Marina Lindemann.
Bonsoir.
Vous êtes sénatrice de Paris, socialiste, ancienne ministre. Demain, Manuel Valls va donc demander la confiance à l'Assemblée. Vous-même, Marina Lindemann, avez-vous confiance dans ce gouvernement ?
Non. À titre personnel, quand on a eu le débat entre nous, entre ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique de Manuel Valls, on s'est posé la question, faut-il voter contre ou faut-il s'abstenir ? Moi, j'ai plaidé qu'il fallait voter contre, parce que je pense qu'on est à mi-mandat et que si on veut construire une alternative à gauche, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre que la situation se dégrade. Pourquoi on est contre ? C'est pas du tout qu'il n'y a pas de délit de faciès pour Manuel Valls. C'est qu'on pense que la politique qu'il propose ne marchera pas, ne fera qu'empirer les résultats qui sont déjà aujourd'hui extrêmement catastrophiques. Donc, j'étais pour aussi de dire qu'il fallait voter contre, parce que je ne supporte pas bien quelque chose qui n'est pas exact. Quand on nous dit si vous votez contre, ça veut dire la dissolution. Non.
Mais ça veut dire potentiellement la chute du gouvernement, arithmétique.
Ça veut dire la chute du gouvernement, mais ça veut dire qu'on peut faire un autre gouvernement.
Ouais. Ça, vous pensez qu'il faudrait l'assumer, la chute éventuellement du gouvernement ?
Moi, personnellement, j'ai plaidé cette cause. Ça n'est pas ce que mes collègues ont préféré. Si je puis dire, ils ont choisi la riposte graduée, c'est-à-dire de dire, bon, on a mis un premier acte, on était 11 à ne pas apporter la confiance la fois dernière. On va ensemble tous s'abstenir. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je n'aurais, si j'étais députée, j'aurais suivi mes collègues. On va tous s'abstenir pour montrer que le mécontentement grandit, qu'il y a une alerte majeure et il y a d'autres votes importants qui viennent, notamment ceux du budget et ceux du budget de la sécurité sociale.
Et là, quand vous dites riposte graduée, ça veut dire qu'en octobre, il faudrait qu'ils montent en puissance et qu'ils aillent vers le vote contre ?
Oui, ça dépendra de ce que nous propose Manuel Valls. C'est-à-dire, pourquoi la riposte graduée ? C'est parce que on pense qu'il y a des inflexions. Alors, il y a des nuances entre nous. Moi, je suis pour une réorientation majeure. Mais au moins des inflexions significatives qui pourraient avoir lieu, notamment sur ce fameux pacte de responsabilité dont le MEDEF est en train de nous raconter qu'il nous a promis 1 million d'emplois et maintenant, on a eu la main, maintenant il faut le bras parce que sinon on ne fera pas le 1 million d'emplois, donc on ne l'aura pas. Deuxièmement, on nous annonçait que ça aiderait aux investissements des entreprises. On découvre dans les statistiques qu'il va y avoir une chute des investissements et les patrons disent qu'ils vont moins investir, ce qui d'ailleurs peut s'expliquer vu de leur point de vue comme la demande est faible. Et troisièmement, on va continuer à plomber notre croissance avec 50 milliards de baisse des dépenses publiques, notamment dans les collectivités locales qui investissent. Donc voilà, moi je le dis tout net, cette politique ne marchera pas. Et de la même manière que quand on a dit « vous n'aurez pas la croissance que vous annoncez, vous n'aurez pas l'inversion de la courbe du chômage, tout ça est faux, vous ne ferez pas les 3% de déficit, arrêtons de dire des choses inexactes et de rentrer dans les dogmes d'alignement de l'Union européenne ». Voilà, donc moi je pense que le temps est venu d'une alternative, en tout cas d'une réorientation majeure et il la faut avant le budget.
En vous entendant ce soir, Marina Lindemann, on a l'impression que vous avez un coup d'avance, si je puis dire, par rapport à vos amis frondeurs. Vous pensez déjà que le mouvement qui se dessine depuis quelques mois peut se transformer en véritable force politique et représenter une nouvelle offre pour la gauche en France ?
Offre
gouvernementale, j'entends.
Il vous a pas échappé, par exemple. Oui, bien sûr, moi je pense qu'il y a besoin de faire un gouvernement qui rassemble le PC, les Verts et le PS. Parce que cette majorité était étroite face à Nicolas Sarkozy. On a gagné d'un point. On voit aujourd'hui l'effritement considérable quand j'entends M. Le Boucher nous dire que cette politique est souhaitée par les Français. Mais on ne serait pas à 13% d'intention de vote, de confiance, et on ne ferait pas 17% aux élections. Hein. La réalité, c'est qu'il y a dans le peuple de notre pays un doute profond. Et un désaccord majeur sur les choix qui sont faits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réforme à faire, mais ce n'est pas la priorité de celle qu'on fait.
Vous dites à l'Élysée à Matignon, coup de barre à gauche, c'est la solution.
Pas seulement coup de barre à gauche. Je dis, redonnons une politique conforme aux engagements qu'on a pris devant les Français. Coup de barre à gauche, ça a l'air de faire de la surenchère. Non, c'est un cap stratégique pour la France. On a à reconstruire notre industrie et on n'a pas à dilapider 41 milliards tous azimuts, sans ciblage, sans contrepartie aux entreprises.
Vous évoquez à l'instant la cote de popularité du président, donc 13% confirmé ce soir par un nouveau sondage Ipsos, 30% pour Manuel Valls. Est-ce qu'on peut gouverner, est-ce qu'on peut garder de la crédibilité et agir de manière efficace quand on est à ce niveau d'impopularité, Marine Le
Pen? En tout cas, il faut faire quelque chose. C'est sûr que si ça continue comme ça, la crédibilité est nulle. Elle n'est pas suffisante. Et la seule façon en politique de reconstituer votre crédibilité, c'est d'abord, bien sûr, de reconquérir la confiance du peuple, des citoyens. Mais si vous n'avez pas des relais, des forces politiques et sociales qui se remettent en mouvement, qui reprennent pied, qui refont des nouvelles propositions, et pas comme j'entends la politique du zigzag. La politique du zigzag, c'est annoncer que les petites retraites ne vont pas être valorisées, deux jours après, de dire qu'elles vont l'être. C'est d'annoncer toute une série de mesures fiscales et de se faire retoquer par le Conseil constitutionnel. Donc non, il s'agit de reprendre pied par rapport aux engagements que nous avons pris. La croissance d'abord, c'était ça un des messages. La réforme fiscale, pas pour alourdir l'impôt, pour rendre le système fiscal plus lourd. Moi, j'étais contre la hausse de la TVA, par exemple. Donc, il y a toute une série de réformes. On avait dit qu'on ferait des filières industrielles. Ben, vous savez, quand vous voyez l'Allemagne, sa compétitivité, elle est liée beaucoup aux produits, aux gammes de produits et à l'intelligence qu'il y a entre les grandes entreprises allemandes et les PME. Donc voilà, il y a des tas de choses à faire dans ce pays. C'était ce qu'on avait dit et c'est là-dessus qu'il faut revenir pour retrouver la confiance du peuple et sauver la France de la crise.
Eh bien, nous suivrons ce vote de confiance, bien sûr, demain à l'Assemblée. Vous ne voterez pas, Marine Le Pen, puisque vous êtes sénatrice, mais vous étiez la voix des frondeurs ce soir. Merci d'être venu dans Europe Nuit.
Emmanuel Faux.
Europe Nuit.
Autour du monde.
Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun chaque soir dans Europe Nuit. Et ce soir, un gros plan sur la Suède avec une alternance un peu particulière. Parce que si la gauche a remporté les élections législatives d'hier, elle n'obtient pas pour autant la majorité absolue au Parlement. Et elle va devoir constituer une coalition pour gouverner. Avec près de 13% des voix, l'extrême droite, le Parti des démocrates de Suède, devient la troisième formation du pays. Henri, est-ce qu'on peut encore parler de modèle suédois ce soir ?
Oui, Emmanuel, absolument. Parce que même si la société suédoise n'est pas aussi idéale qu'on le pensait autrefois, elle reste très avancée sur le plan de la tolérance, de la générosité envers les immigrés, du droit des femmes et des minorités. Elle a toujours sa religion d'État, celle de la négociation, du consensus, et sa culture nationale, celle du réformisme, ce réformisme qui lui a permis de maîtriser les équilibres économiques et les coûts, la santé, la retraite, le chômage par exemple, tout en préservant les acquis sociaux. Bref, à bien des égards, la Suède reste toujours la référence en Europe, y compris d'ailleurs en ce moment pour les indépendantistes écossais qui voudraient bien lui ressembler à l'avenir. Et cela parce qu'elle est avant tout une synthèse presque parfaite entre socialisme et capitalisme. D'ailleurs, Emmanuel, l'avoir oublié, c'est en grande partie ce qui explique la défaite de la droite et du Premier ministre sortant Fredrik Reinfeldt, malgré une vraie réussite sur le plan économique. Il a poussé un peu trop loin le bouchon du libéralisme, en privatisant à outrance, en laissant filer les inégalités. Or, plusieurs scandales dans des écoles ou des maisons de retraite gérées par le secteur privé ont scandalisé les Suédois, qu'ils n'y ont pas pardonné.
Malgré tout, Henri, on a l'impression que ce retour au pouvoir des sociodémocrates, qui sont quand même les inventeurs de ce modèle dont vous venez de parler, est très fragile.
C'est vrai que pendant des décennies, ce modèle, ce sont les sociodémocrates qui l'ont eux-mêmes porté. Rappelez-vous d'Olof Palme, le Premier ministre dont l'assassinat en 1986 a traumatisé le pays. Mais ils ont fini par s'essouffler, par décevoir et enfin par perdre la confiance du peuple. Ils reviennent aujourd'hui après une cure d'opposition de 8 ans, la plus longue de leur histoire. Mais leur chef, Stefan Löfven, un ancien syndicaliste, jamais élu, jamais ministre, va devoir faire des acrobaties pour former son gouvernement dans un parlement désormais divisé en 3 blocs avec la gauche et les écologistes, la droite et l'extrême droite. Alors on peut dire que sa victoire prouve une fois de plus que ce modèle social reste bien ancré dans l'ADN des Suédois. Mais cette victoire de la gauche est si courte, 31% des voix seulement, qu'elle montre que ce parti social-démocrate est encore très loin de faire de nouveau rêver, notamment dans les classes populaires.
Et donc, c'est ce qui explique la nouvelle percée de l'extrême droite.
Oui, tous les sondages montrent que les démocrates de Suède, attention Emmanuel, c'est le nom du parti d'extrême droite, les démocrates de Suède ont effectivement capté les voix d'une grande partie de cet électorat populaire qui s'estime laissé pour compte et trahi par les grands partis. C'est d'ailleurs la recette de tous les populistes européens, avec les campagnes anti-immigrés. Or, la généreuse Suède va encore accueillir 80 000 demandeurs d'asile cette année, et les émeutes des jeunes immigrés l'an dernier dans la banlieue de Stockholm ont pas mal inquiété. Mais cette extrême droite, du haut de ses 13% de voix, va-t-elle pour autant se retrouver en arbitre des élégances au Parlement ? Pas du tout, car les 7 autres partis ne veulent rien avoir à faire avec elle. C'est ça aussi la Suède, Emmanuel.
Le nouveau paysage politique suédois avec Henri Guirchoun dans Autour du Monde. Merci Henri. Et avant de refermer le rideau sur cette édition d'Europe Nuit, je vous livre quelques-unes de vos journaux que vous trouverez demain en kiosque ou sur vos tablettes. D'abord, ce vote de confiance au gouvernement à risque à la une de Direct Matin qui pose la question « Et si c'était non ?» en montrant la photo d'un Manuel Valls préoccupé assis au banc des ministres à l'Assemblée. L'abus de confiance de Valls à l'Assemblée, c'est le titre de l'Humanité, tandis que l'opinion estime que derrière la confiance, il y a la fracture et que les écrits des députés frondeurs révèlent des élus idéologiquement plus proches de Jean-Luc Mélenchon que de François Hollande. Pour eux, le divorce est consommé. Les Échos s'interrogent sur la situation de la croissance et du chômage dans la zone euro. Après le FMI, l'OCDE s'inquiète du 0,8% de croissance que va réaliser la zone euro cette année. La zone euro donc en état d'urgence. Et puis enfin, à la une du quotidien gratuit 20 minutes, un sondage sur les motards. Les motards qui dérapent, selon le baromètre AXA Prévention, la moitié des pilotes de deux roues estiment être ceux qui conduisent le plus dangereusement. Ce sont eux-mêmes qui le disent. 22h30 dans Europe Nuit. L'heure de retrouver Caroline Dublanc jusqu'à 1h du matin au 39-21 pour la Libre Antenne. Bonsoir chère Caroline.